qui continuent de terroriser leurs victimes à même leurs cellules en prison parce qu'ils ont accès à des téléphones cellulaires et contactent les victimes sur les réseaux sociaux. Des membres du crime organisé qui continuent d'opérer leur réseau à même la prison parce qu'ils ont des téléphones cellulaires. C'est une honte au Québec à quel point c'est facile par drone d'aller porter des téléphones cellulaires dans les prisons. C'est d'une facilité déconcertante. C'est un fléau qui est en augmentation constante depuis plusieurs années. C'est vraiment, il y a tellement de téléphones en circulation dans les prisons, vous n'avez pas idée comment. Et ce n'est pas la faute des agents correctionnels. Les agents correctionnels, je vais vous dire, qui font une méchante job avec le peu d'outils qu'ils ont et le peu d'effectifs qu'ils ont aussi. Parce qu'il n'y a pas grand monde présentement qui veut aller faire cette job-là. C'est vraiment, vraiment pas facile. Ils sont en manque d'effectifs un peu partout et ils ont très peu d'outils pour réussir à faire leur travail convenablement. Alors, respect aux agents correctionnels, on a besoin de vous. Je sais que c'est pas un métier qui est facile. Maintenant, ça fait plusieurs années que les agents correctionnels demandent à ce qu'il y ait des brouilleurs d'ondes à l'intérieur des prisons pour freiner justement les activités sur les téléphones cellulaires des détenus. Si vous n'êtes pas capable d'arrêter, de faire arrêter les drones, si vous n'êtes pas capable d'essayer d'empêcher les drones de venir jusqu'à la prison, ben au moins empêcher les détenus de pouvoir utiliser leur téléphone cellulaire. Ce qu'on apprend ce matin, c'est qu'il y a un projet pilote qui a été approuvé par le gouvernement fédéral qui va permettre l'utilisation de brouilleurs d'ondes dans les établissements de détention du Québec. Alors, ça fait longtemps qu'on attend cette mesure-là, comme je le disais. C'est tous les établissements fédéraux et les établissements provinciaux aussi qui vont pouvoir bénéficier de ce projet de loi-là. Pas ce projet de loi, mais de ce projet pilote-là, c'est-à-dire. Alors, on va voir si ça va donner quelque chose. Ça fait plus de 10 ans, comme je le disais, que les agents correctionnels le demandent. Alors, il y a eu de nombreux incidents dans les dernières semaines liés au téléphone en prison. J'ai hâte de voir si ça va être la solution pour régler le problème. Selon plusieurs agents correctionnels, selon le syndicat aussi, ça peut être un outil qui va être d'une grande efficacité pour tenter de contrer ça. Alors, on va voir. Ça devrait entrer en vigueur très prochainement. Et puis, si t'as pas besoin d'avoir un téléphone cellulaire, si t'as un brouilleur d'ondes puis t'es pas capable de l'utiliser, tu seras pas capable de communiquer avec le monde extérieur.
Ça va leur prendre leur code Wi-Fi.
Non, c'est ça. Ils vont être capables, c'est ça?
Au marché noir.
Ah oui, exactement. Dernière histoire que je vais vous raconter ce matin. Vous avez peut-être lu cette semaine, dans les derniers jours, le récit incroyable de cette famille de migrants qui ont été sauvés à la frontière du Canada et des États-Unis en Montérégie. Écoute, le récit était raconté comme une histoire dans la presse. C'était fantastique. Puis c'est fantastique parce que ça s'est bien fini. Là. Les 5 personnes ont été retrouvées saines et sauves, bien que dans un état, évidemment, assez... Ils ont eu froid là, pendant plusieurs heures. Mais c'était raconté comment les policiers de la GRC avaient marché pendant des heures dans le bois en collaboration avec les hélicoptères, en collaboration même avec les agents du côté des Américains pour tenter de localiser la famille. C'était 4 adultes et 1 adolescent qui tentaient de traverser la frontière à pied. Ils ont fini par les trouver. Ils étaient même plus capables de marcher, les migrants, tellement qu'ils étaient gelés. Et ils ont fini par les trouver. Même pour les policiers, la marche de plusieurs heures dans la forêt, ça a été difficile. Il a fallu qu'ils se fassent lancer de l'eau et des barres tendres par les hélicoptères pour pouvoir continuer leur marche, tellement que c'était pas évident. Imaginez ce que les migrants ont fait, pas d'équipement, pas rien. Ce qu'on apprend dans le Journal de Montréal ce matin, c'est qu'il y a une autre famille de migrants qui a été sauvée hier soir. Ça s'est passé dans la région de Havelock, en Montérégie toujours. C'est un peu le même secteur où la famille de la semaine dernière a été sauvée. Dans ce cas-ci, on parle de 2 migrants et 2 enfants de moins de 2 ans. Les 2 enfants étaient très légèrement vêtus. Il n'y avait même pas de tuque et pas de mitaine. Et il y en a qui avaient perdu une botte pendant le trajet. Pour vous donner une idée, il faisait -10 dans la nuit dernière, en fait. Alors, il y a des policiers, des pompiers et des ambulanciers qui ont participé à l'opération et qui ont fini par localiser les 4 migrants qui ont été transportés à l'hôpital Anna-Laberge par la suite. Ils étaient en état d'hypothermie, mais leur vie n'est pas en danger présentement. Puis on lit ça, là, puis ces histoires-là, puis il y en a encore beaucoup, hein. Il y en a beaucoup moins, là, des passeurs, mais il y en a encore beaucoup quand même. C'est pour vous dire à quel point les gens sont prêts à aller loin pour améliorer le sort de leur famille. Ils mettent leur vie en danger, littéralement, en sachant très bien que ça se peut que malheureusement, ils traversent pas la nuit. Mais leur objectif, c'est d'aller chercher une vie meilleure pour leur famille. C'est infiniment triste. Mais ça, c'est bien fini. Ils ont été secourus et on va voir pour la suite des choses. Mais donc, c'est la 2e opération en 2 semaines qui est survenue en Montérégie. Alors, on va voir. On espère qu'il n'y en aura pas trop d'histoires comme ça. Mais il y en a eu des migrants qui sont morts en essayant de traverser la frontière. Et c'est infiniment triste. Si vous avez quelque chose à ajouter, 98985. Il est 7h34 minutes. On s'arrête pour la pause. On revient dans quelques instants.
Attention, auditeurs du FM 93 Rimouski. Vous cherchez un professionnel en publicité pour donner de la visibilité à votre entreprise? Vincent Gagnon est là pour vous. Originaire de Rimouski et œuvrant dans la publicité depuis 2004, il est le nouveau représentant vente de votre radio locale. Contactez-le au 88-730-1315, 88-730-1315 et faites-vous entendre dans tout le Bas-Saint-Laurent. Connaissez-vous DPI Technologies? C'est le spécialiste en vente et réparation d'imprimantes, vente de cartouches originales ou recyclées garanties 2 ans. Commandez vos cartouches par téléphone et nous livrons le lendemain sans frais. Atelier de réparation, installation d'imprimantes, services résidentiels et commerciaux et on se déplace. Pourquoi jeter quand on peut réparer? DPI Technologies en plein centre-ville au 76 rue Saint-Germain-Ouest à Rimouski. 418-724-0332, 418-724-0332.
Groupe Emploi. TMS Solutions est présentement à la recherche de plusieurs électromécaniciens. Cette entreprise de Rimouski offre des services de soudage, mécanique industrielle et d'électromécanicien. Nous cherchons des employés passionnés et autonomes pour les secteurs du Bas-Saint-Laurent Gaspésie. Vous aimez résoudre des problèmes et réparer des équipements hors route ou fixes? Envoyez votre CV à info@commercialtmssolutions.ca ou appelez au 581-805-1160. C'est avec plaisir que nous prendrons contact avec vous.
Passionné par la chasse, la pêche ou le plein air, la pourvoirie de la Seigneurie du lac Métis, la plus grande pourvoirie de l'Est du Québec, est à la recherche d'un adjoint administratif pour ses bureaux de Rimouski et un préposé à l'accueil directement sur le territoire de la pourvoirie. Pour plus de détails concernant les prérequis et les conditions de travail, contactez-nous au 418-896-6338 ou envoyez votre CV à admin.pourvoirie@explornet.net. La pourvoirie de la Seigneurie du lac Métis, tout un monde à découvrir.
Ici Sébastien Desjardins de H. Grégoire Rimouski. Profitez de mes 20 ans d'expérience dans le domaine de la vente de véhicules d'occasion. Que ce soit pour l'achat ou la vente d'un véhicule, venez me rencontrer pour une expérience personnalisée. Contactez-moi au 418-723-8800. H. Grégoire Rimouski.
Des métaux ou un véhicule hors d'usage à recycler? Métal du Golfe à Saint-Anne-Athlée vous les rachète. Cuivre, aluminium, acier et bien plus. En nous apportant vos métaux, vous recevez de l'argent tout en posant un geste concret pour l'environnement. C'est ça, recycler vers l'avenir. Métal du Golfe, votre partenaire pour le recyclage de métaux ferreux et non ferreux. Visitez-nous au 552 rue principale Ouest à Saint-Anne-Aglais ou appelez-nous au 418-723-8885.
Le marché Richelieu de Saint-Fabien vous invite à découvrir sa toute nouvelle épicerie réaménagée, alliant modernité et charme d'antan. Profitez d'un service personnalisé comme dans les bonnes vieilles épiceries. En plus, nous sommes mandataires de l'agence SAQ avec sélection de vins et spiritueux.
Nous sommes ouverts du dimanche au mercredi de 8h à 18h, les jeudis et vendredis de 8h à 21h, le samedi de 8h à 19h. Le marché Richelieu, un lieu où la qualité et tradition se rencontrent.
FM 93, la radio qui fait jaser. Le sport, les nouvelles d'ici, les enjeux de l'heure, les sujets qui vous mettent et qui vous mettent sans filtre. La radio qui fait jaser dans le Bas-Saint-Laurent. FM 93.
Même le week-end.
Au réseau Cogeco Média, vous écoutez Même le week-end. De retour à Élisabeth Crête.
Et on va faire maintenant les manchettes avec Thomas Mercier qui est avec nous. Salut Thomas.
Salut Elisabeth.
Alors la valse des tarifs continue.
Oui, mais cette fois, c'est au tour de la Chine d'imposer des tarifs douaniers au Canada. C'est plus seulement les États-Unis. Là, c'est une information qui a été relayée hier tard par l'agence de presse Reuters. Donc les tarifs de 100% et de 25% s'appliqueront à une série de produits alimentaires et d'agriculture du nombre. Donc les huiles et les produits de leur extraction ainsi que les pois seront frappés d'une taxe de 100%. Et les produits de la mer et le porc canadien seront quant à eux taxés à la hauteur de 25%. Donc, c'est des tarifs punitifs qui sont une réponse de la Chine à la décision canadienne qui a été annoncée en août dernier d'imposer des tarifs douaniers de 100% aux véhicules électriques chinois et de 25% sur les tarifs sur les produits d'aluminium et d'acier en provenance de la Chine, comme l'avaient fait les États-Unis à l'époque.
La compagnie de la baie du Tusson s'est placée vendredi à l'abri de ses créanciers.
Oui, c'est une vieille compagnie qui a été fondée en 1670, la compagnie Hudson's Bay, dont le siège social est basé à Toronto, qui exploite 80 magasins. Donc, la compagnie a fait savoir vendredi qu'elle tenterait de se restructurer et qu'elle comptait préserver les emplois de son personnel pendant les procédures. La baie du Tusson doit faire face à un contexte économique qui est très difficile dernièrement, qui a été provoqué par une forte inflation et des taux d'intérêt élevés qui ont largement modifié les habitudes de consommation des ménages depuis la pandémie. C'est le Wall Street Journal qui a été le premier vendredi à ébruiter la nouvelle et qui a rappelé que la baie avait effectué là, ces derniers mois plusieurs mises à pied et avait vendu en 2023 plusieurs pans de son portefeuille immobilier.
Et finalement, un homme de 39 ans a été retrouvé gravement blessé dans un véhicule hier soir dans l'arrondissement de Saint-Léonard à Montréal.
Oui, les policiers ont localisé la victime lors de leur arrivée sur les lieux sur la rue Jean-Rivard, près de l'intersection avec la rue Jean-Nicolet. Les circonstances qui entourent cet événement-là sont encore inconnues des policiers. Marianne Allaire-Morin de la police de Montréal nous donne les derniers détails de l'enquête qui est toujours en cours.
Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils localisent la victime, qui soit un homme âgé de 39 ans. Il est assis dans un véhicule inconscient et blessé au haut du corps par un objet tranchant. Il est rapidement pris en charge par les paramédics d'urgence santé et transporté dans un état critique à l'hôpital.
Merci beaucoup, Thomas.
Le sport.
Grosse journée hier, date limite des transactions. On attendait du mouvement du côté du Canadien de Montréal et il n'y en a pas eu.
Il n'y a pas eu de mouvement, mais c'est quand même une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas eu de mouvement parce que c'est ce que Kent Hughes a dit. Et là, maintenant, vous avez le choix dans la vie de croire ou non ce que Kent Hughes dit. Mais tout ça pour dire, c'est que on a décidé de garder les joueurs autonomes qui avaient la possibilité d'être échangés à la date limite des transactions. Donc, ça veut dire que David Savard fait toujours partie de l'équipe. Même chose pour Dvorak, même chose pour Yoel Armia. Tandis que Jake Evans a été signé, c'est deux jours avant la date limite des transactions cette semaine, a été signé une prolongation de contrat de 4 ans. Le Canadien, mine de rien, là, je vais te dire ce qui se passe, puis je vais t'expliquer ce qui s'est passé hier. Ce qui se passe, c'est que le Canadien joue ce soir contre les Flames de Calgary, émission d'avant-match à compter de 18h. Montréal, présentement, est à un point d'une place en série de fin de saison détenue par les Sénateurs d'Ottawa qui ont 68 points. Ça, c'est la dernière place disponible. À partir de là, entre les deux, tu as les Rangers de New York qui ont 67 points. Fait que donc, si tu gagnes, tu t'approches vraiment, là, t'es à un point. Et ce soir, il y a un match entre deux équipes. Les Rangers affrontent les Sénateurs d'Ottawa. Fait que donc, il y a un des deux clubs qui va perdre. Quand on parle de match important, là, ce soir, c'en est un pas pire face aux Flames de Calgary. Hier, dans le point de presse, Kent Hughes a dit, écoutez, ce qui va se passer présentement, les joueurs nous ont demandé, on sentait avec les 5 victoires de suite, que le groupe voulait rester intact. Maintenant, on va voir comment le groupe va réagir. Moi, j'aime l'idée de regarder comment les gars vont réagir sous la pression, parce que là, il y en a de la pression. C'est pas juste, on veut une victoire morale, on a travaillé fort, mais on n'a pas été récompensé. Non, t'as besoin de 2 points. Faut que tu gagnes, là. T'affrontes Calgary, t'affrontes les Canucks de Vancouver, t'affrontes le Kraken de Seattle. Il faut que tu gagnes. T'es sur la route, c'est pas toujours évident en deuxième période. Les bancs sont loin, les changements. On a vu dans le dernier match contre les Oilers, là, des présences sur la patinoire, 2 minutes, 2 minutes 10. Ça devient difficile en deuxième période. Fait que donc, il faut que tu gagnes des games. C'est là que ça se passe. Puis si ça marche pas, ben, tu seras en mesure d'évaluer qui t'as sous la main du côté du Canadien de Montréal. Hier, en plus, les Red Wings de Détroit ont perdu 5-2 face aux Capitals de Washington. Et là, ça m'amène à la journée d'hier. Hier, les Bruins de Boston, qui étaient dans la course, tout comme le Canadien, les Bruins ont liquidé l'équipe. Boston, là, oubliez ça, c'est plus la même face qu'on avait avant. Brad Marchand est parti pour les Panthers de la Floride. Charlie Coyle.
Fin d'une ère. Juste à dire, Brad Marchand, là, c'est fou comment ça a fait réagir hier sur les réseaux sociaux. Hein. C'était comme, oui, vraiment. Les gens étaient comme, c'est vraiment la fin d'une ère.
Visage des Bruins ne sera plus jamais le même. Donc, Marchand, lui, quitte pour la Floride. Charlie Coyle, il s'en va avec l'Avalanche du Colorado. Brendan Carew s'en va avec les Leafs de Toronto. Trent Frederick, lui, a déjà été échangé pour les Oilers d'Edmonton. C'est vraiment quelque chose de différent. Donc, c'est ceux qui sont en arrière du Canadien. Les Islanders de New York, leur meilleur joueur, on peut dire ça, meilleur joueur de centre, Brock Nelson s'en va avec le Colorado. Les Flyers, Scott Lawson s'en va avec les Leafs de Toronto. Les Sénateurs d'Ottawa, l'équipe qui bataille avec les Rangers et les Canadiens, eux ont fait l'acquisition de Dylan Cousin. Et se sont départis des services, puis Dave t'en parlait un petit peu plus tôt, de Josh Norris. Ce qui est arrivé dans cette histoire-là, Josh Norris, sensiblement le même contrat que Dylan Cousin, mais souvent blessé dans le cas de Norris. Sauf que Norris, c'est le chum de Brady Tkachuk. hier, Brady Tkachuk en point de presse dans le vestiaire de l'équipe. Brady, comment tu prends ça que Norris soit échangé? Écoute, il est sur le bord de pleurer.
Pour vrai?
Ah, je te jure.
Oh.
Ah non, il...
Norris, c'est un gars qui est apprécié en plus du capitaine puis des coéquipiers. Ouais.
Fait que donc, un chum, prennent le chum, l'envoient à Buffalo, vont chercher Dylan Cousin qui a vraiment une saison ordinaire. Là, Dylan Cousin va tout faire pour prendre sa place avec les Sénateurs d'Ottawa. Mais quand on dit des fois faire des transactions, ça peut déstabiliser la chimie de ton équipe. On va voir ce qui va arriver avec les Sénateurs parce que là, ils viennent de perdre un ami. Clairement, écoute, c'est supposé d'être mature et d'être professionnel, là. Mais des fois,
il y a le côté humain.
Ben oui,
c'est sûr,
tu changes la dynamique, tu changes la chimie de l'équipe. On verra ce que ça donnera, mais sincèrement, ça va être fort intéressant. Il faut mentionner hier ce qui a retenu l'attention, c'est vraiment Mikko Rantanen qui est échangé. Lui qui avait été échangé de l'Avalanche Colorado aux Hurricanes de la Caroline. Eh bien, les Hurricanes l'ont échangé aux Stars.